Au quotidien, avec Hélène Denis.
Mardi, de retour de congé. J'espère que vous avez bien profité de ce congé pascal, même s'il n'y a pas eu beaucoup de soleil, mais le soleil brillait dans nos yeux, dans notre cœur. N'est-ce pas, Mathieu?
Ah oui, tout à fait.
Vous avez fait du chocolat, vous?
Oui, je n'ai pas créé la noix de chocolat. Je ne suis pas un chocolatier.
Oui, chocolatier.
Mais oui, on...
OK, vous vouliez y aller encore plus à l'origine.
Mais oui, on a fait fondre du chocolat. On a rajouté des Rice Krispies. Ça faisait des années que je n'avais pas mangé
ça. Un peu de craquant.
Un peu de craquant avec des noisettes. Donc, il y avait du chocolat au lait, du chocolat noir et du chocolat blanc.
Les cabanes à sucre étaient très populaires.
J'imagine.
Je ne suis pas allée. Êtes-vous un fan de cabanes à sucre?
Je suis un fan de sirop d'érable, mais moins de cabanes à sucre.
Vous auriez adoré le velouté à l'érable que ma mère a concocté avec beaucoup d'amour. Crème chantilly, érable. Il y avait également des oreilles de Chris pour nous rappeler la tradition de la cabane à sucre.
Il n'y avait pas de grand-père dans le sirop?
Non, il n'y en avait pas. Mais non, Isabelle Falardeau n'était pas dans le brunch, Pascal, n'a pas participé. Alors peut-être une autre fois, parce que oui, si vous n'étiez pas à l'écoute, c'est Isabelle qui nous a donné la recette de Sœur Angèle, mais on ne l'a pas fait. Non, j'ai pas fait ça cette année, peut-être l'année prochaine.
Ça revient à chaque année, Pâques, c'est l'avantage.
Oui, puis des grands-pères dans le sirop, on peut en faire n'importe quand.
Mais...
Parce que du sirop d'érable, du vrai de vrai, on peut en avoir à longueur d'année et du faux de faux également. Là, on a su récemment qu'il y avait quelqu'un qui nous en passait une petite vite, mettait du sucre de canne dans ses boîtes de conserve.
C'est pour ça que moi, on est très heureux d'acheter notre sirop d'érable d'une petite ferme.
Oui.
C'est pas une ferme, mais d'un endroit...
sûr?
Exactement.
Une érablière.
Familiale. Petite, une coop, et voilà.
Il n'y a rien de mieux.
Ça
quand on connaît
bien.
Les gens aussi, là,
ben,
quand on a un lien de confiance. Cela dit, jeudi dernier, c'était la première médiatique du spectacle de Michel Fugain, 83 ans, bientôt 84. Il a une énergie contagieuse. À la toute fin de son spectacle, tout le monde était debout et dansait.
Seul dans l'univers, j'ai peur du ciel et de l'hiver, j'ai peur des fous et de la guerre, j'ai peur du temps qui passe, dit comment peut-on vivre aujourd'hui, dans la fureur et dans le bruit, je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Cet amour que l'on m'a chanté, ce sauveur de l'humanité, je n'en vois pas la trace, dit comment peut-on vivre sans lui, sous quelle étoile, dans quel pays, je n'y crois pas, je n'y crois plus, je suis perdu. J'en ai marre d'être roulé par marchand de liberté, d'écouter se lamenter. Ma gueule dans la glace dit, est-ce que je dois montrer les dents? Est-ce que je dois baisser les bras? Je ne sais plus, je ne sais pas, je suis perdu.
Oui, Michel Fugain qui donne un excellent spectacle par les temps qui courent. Il est à la 5e salle de la Place des Arts. Ça affiche complet, toutes les représentations affichent un complet. Il y a une représentation du côté du Théâtre Manuvie à Brossard le 14 avril. Je vous le recommande fortement. C'est un spectacle chaleureux qui fait beaucoup, beaucoup de bien. Michel Fugain, 83 ans, comme je le disais, il est toujours en voix. Il est super bien accompagné par 8 musiciens du Québec et aussi sa femme, l'amour de sa vie. En fait, il a eu une première femme avec qui il a eu des enfants et cette deuxième qu'il a rencontrée alors qu'il avait 60 ans. Et c'est une femme très dynamique, une roumaine, sa grande complice qui l'accompagne en tant que choriste. Elle chante aussi une chanson à un moment donné. Ils dansent ensemble. Il se raconte, ce Michel Fugain, en racontant l'histoire derrière ses chansons et c'est vraiment passionnant. On sourit, on chante, on tape des mains, on danse aussi, comme je le disais tantôt, et on se met à croire au printemps. Journal de Montréal aujourd'hui, hausse des attaques de patients violents, veste anti-couteau à l'hôpital. Les attaques de patients violents dans les hôpitaux sont en forte hausse au point où des agents de sécurité sont désormais munis de vestes de protection contre les coups de couteau. Le monde ne se gère plus. Les menaces comme « je vais te défoncer »,« je vais te tuer », ce sont des paroles que j'entends toutes les semaines, témoigne le docteur Nicolas Elazari, qui travaille à Sherbrooke, médecin depuis 21 ans. Il estime devoir se battre chaque mois avec un patient dangereux qu'il faut maîtriser. Un peu partout dans la province, on note une augmentation de l'itinérance de patients intoxiqués aux drogues dures, de problèmes de santé mentale. Le cocktail peut être explosif, surtout aux urgences. De plus, les longs délais pour être soignés, la hausse du nombre d'aînés atteints de démence et le manque de personnel peuvent favoriser une escalade vers la violence. En 5 ans, le nombre d'incidents violents vécus par les employés du réseau a augmenté de 69 %. Selon les soignants, le phénomène est sous-estimé. La plupart des petites urgences du Québec n'ont même pas de gardien de sécurité. En cas de danger, les employés doivent appeler la police. En attendant, ils doivent maîtriser l'individu et souvent évacuer la salle d'attente. On a beau en parler, c'est dur d'arriver à l'action, déplore la docteure Marie-Maude Couture, qui est présidente de l'Association des médecins d'urgence du Québec. Ce qui me préoccupe, c'est le silence, la normalisation. On banalise ça comme si ça faisait partie du travail inhérent de l'urgence. Il y a beaucoup de détresse psychologique, estime-t-elle. Un moment historique fort en émotion, la face cachée de la Lune comme jamais vue. Les quatre astronautes d'Artemis 2 sont devenus hier les humains ayant parcouru la plus grande distance depuis la Terre, en plus d'être les premiers de l'histoire à observer à l'œil nu la face cachée de la Lune. Des photos impressionnantes, même très émouvantes. On en parle un petit peu partout, à la une de la presse notamment. Il en est question. Artemis 2, un record et des larmes. L'humain n'est jamais allé si loin. Après avoir battu le record de distance avec la Terre, le Canadien Jeremy Hansen et ses trois collègues astronautes ont passé 7 heures à observer la géologie lunaire. Ils ont notamment scruté la face cachée de la Lune et observé une éclipse solaire depuis la Lune, deux premières pour un vol habité. Les observations ont été un moment fédérateur, a dit l'astronaute David Saint-Jacques. On n'a pas seulement un nouvel équipage dans la capsule, mais aussi une nouvelle équipe de soutien scientifique. Toute l'équipe lunaire se met en place. Et on nous parle aussi de l'agenda d'aujourd'hui, la mission au jour le jour. 13h30 aujourd'hui, Integrity sort de la zone d'influence lunaire. 15h30, conversation entre les astronautes d'Artemis 2 et de la Station spatiale internationale. Et vendredi, 10 avril, 21h, Amérissage au large de la Californie. On parle d'un hommage émouvant. Des larmes ont accueilli la première observation. Son nom était Carol, l'épouse de Reed et la mère de Cathy et Ellie, a dit Jeremy Hansen en annonçant que l'équipage d'Artemis 2 avait décidé de nommer un cratère sans nom en l'honneur de la femme du commandant Reed Wiseman, morte en 2020. Le commandant Wiseman a pleuré, a tenu l'épaule de Jeremy Hansen, puis lui a donné une accolade. Christina Koch s'est aussi essuyée les yeux. L'émotion a monté d'un cran quand les quatre astronautes se sont réunis pour un câlin de groupe. À la une de la presse également, scandale financier. Le Bangladesh et la mafia traquent une fortune au Québec. Des fugitifs accusés d'avoir siphonné le système bancaire du pays auraient caché des sommes considérables dans la province. Et conflit au Moyen-Orient, Trump menace l'Iran d'apocalypse, rien de moins. À la une de du Devoir maintenant, les entreprises funéraires demandent plus de l'État pour acheminer les corps aux coronaires. C'est Sébastien Tanguay qui signe l'article. La hausse générale du coût de la vie rattrape même le transport des morts. Devant des frais d'exploitation en forte croissance, la Corporation des thanatologues du Québec demande une révision des tarifs octroyés par l'État pour la préparation et le voyage des dépouilles pour le bureau du coroner. Le gouvernement, en vertu d'un projet de règlement encore à l'étude, songe à augmenter de plus de 200 % la grille tarifaire en vigueur pour éviter des bris de service.
Je ne peux pas te les plaire.
Vanille et sa chanson « Lune d'argent ».
C'est le 7 avril. Aujourd'hui, c'est la journée du travail invisible. Et à cette occasion, des groupes demandent plus qu'une tape d'encouragement dans le dos pour ces travailleurs. Dans l'ombre, ils revendiquent une plus grande valorisation et des mesures concrètes. Le travail invisible, c'est d'être proche aidant d'un parent âgé, d'une personne qui vit avec un handicap. C'est aussi être bénévole dans un organisme communautaire, participer à l'entreprise familiale, faire des tâches domestiques, suivre un stage obligatoire non rémunéré, par exemple. C'est dans ce contexte que l'Association féministe d'éducation et d'action sociale et la Coalition nationale pour l'équité du travail invisible au Canada ont publié un manifeste afin de faire mieux connaître leurs revendications et d'étendre des mesures qui sont intéressantes, mais limitées à une seule province, par exemple. Ces groupes ne demandent pas de verser un salaire à ces travailleurs invisibles, mais de voir à ce que ces personnes ne soient pas pénalisées dans leur autonomie économique parce qu'elles ont dû mettre leur carrière sur pause, a expliqué en entrevue Emma Safar, coordonnatrice du projet. Des mesures de soutien devraient donc être déployées pour soutenir ces travailleurs dans l'ombre. Il peut s'agir de crédits d'impôt, de prestations de retraite plus généreuses, d'occasions de répit, de mesures de conciliation travail-famille dans les entreprises privées. La population canadienne, québécoise, est peu sensibilisée à ce sujet-là. C'est une réalité qui touche beaucoup de monde en travaillant justement directement avec les populations touchées, avec les familles, en sensibilisant, c'est pour pouvoir montrer et essayer d'avoir un appel commun, une voix commune et de montrer au gouvernement qu'il y a un réel besoin, a commandé Mme Safar. Autre texte, cette fois signé Louis-Philippe Messier, obligé de vivre dans un CHSLD depuis 2 ans. Un jeune homme qui vit avec une maladie dégénérative espère parvenir à sortir du système de santé et vivre dans un milieu familial. « Je suis bien traité ici, mais un CHSLD, c'est sûr que c'est loin d'être un contexte idéal pour un jeune comme moi », confie Joey Saint-Jean. Logé au centre d'hébergement Paul-Émile Léger en plein centre-ville de Montréal, l'homme de 24 ans indique que la plupart de ses voisins dans l'édifice de 196 lits ont le double ou le triple de son âge. Confiné à un fauteuil roulant en raison d'une amyotrophie spinale, M. Saint-Jean a besoin de soins assidus pour se lever, se coucher, se laver, s'habiller et même pour manger. « Ma maladie empêche les signaux de se rendre aux muscles, alors mes mouvements sont très limités », raconte-t-il. M. Saint-Jean dispose toutefois de la motricité nécessaire pour utiliser un téléphone, un ordinateur ou pour jouer à des jeux vidéo. Joey Saint-Jean vit dans une chambre qu'il partage avec un autre résident depuis 2 ans. Jusqu'à ses 20 ans, Joey a vécu avec sa mère dans l'arrondissement de Saint-Léonard. Une fois que les enfants handicapés deviennent des adultes, leurs familles ont soudainement beaucoup moins d'aide et de soutien, déplore le jeune homme. Ça peut devenir trop lourd pour n'importe quel parent parce qu'un enfant handicapé n'a pas soudainement moins de besoins, juste parce qu'il a 18 ans. Il ne s'est toujours pas remis du choc de sa prise en charge par le système de santé. Honnêtement, j'ai l'impression d'être un numéro, confie celui qui rêve de se retrouver dans une famille. Les gens avec qui je vivrais auraient droit à des allocations d'autonomie à domicile et je paierais un loyer, explique-t-il. C'est sûr qu'il faut que ce soit dans un lieu accessible en fauteuil roulant et que ça élimine plusieurs familles potentielles. M. Saint-Jean est conscient que son rêve implique certains risques, dont celui de tomber sur des gens malveillants. C'est un risque que je suis prêt à prendre. Il est aussi prêt à s'éloigner de la métropole si le foyer d'accueil est en région. L'espérance de vie pour quelqu'un qui a ma condition est de 35 ans. J'en ai déjà 24, alors je veux profiter de la vie au maximum. Si son rêve d'un retour en famille devait ne jamais se réaliser, Joey Saint-Jean pourrait se trouver une place dans des résidences intermédiaires. Je suis sur 2 listes d'attente, dit-il. Le centre d'hébergement Paul-Émile Léger, spécialisé dans la clientèle lourdement handicapée, a des résidents plus jeunes que la moyenne des CHSLD. Il dispose de l'équipement adapté et dispense des activités en conséquence. Un résident sur 4 d'ici à 40 ans ou moins, affirme Danny Raymond, le porte-parole du CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. La série Vestiaire est de retour les mercredis à 20h dès le 22 avril sur Ami Télé. C'est avec plaisir qu'on annonce le retour de Vestiaire, la comédie à sketch qui plonge dans l'univers déjanté d'un club de nageurs en situation de handicap. Revient avec 8 nouveaux épisodes. À partir du 22 avril, Louis Choquette reprend la réalisation de cette 3e édition. La 3e saison du club de natation commence avec une catastrophe. Le vestiaire a été vandalisé. Graffitis haineux, objets éparpillés, casiers saccagés. C'est le chaos. Déterminé de faire la lumière sur cette affaire, Pierre, incarné par Michel Charette, mène l'enquête avec un sérieux inattendu. Une fois le mystère en partie résolu et le vestiaire remis à neuf, les nageurs retrouvent enfin leur refuge. Dans ce décor rafraîchi, les entraînements reprennent, tout comme les discussions, mais le calme est de courte durée. Stéphane, Dominique Sillon, en quête de reconnaissance, menace de quitter le club et affronte un refoulement d'égout chez lui. Mike, Michel Cordé, de son côté, se lance en politique et héberge Stéphane pendant les rénovations. Une cohabitation qui pourrait bien mettre leur amitié à rude épreuve. Pendant ce temps, Catherine, Charlie Rousseau, poursuit sa quête du grand amour. Caro, Lamia Ben Hassin, avec sa mémoire défaillante, s'attire des ennuis à répétition. Et Valérie, Andréane Fortin, avec ses tics, se retrouve malgré elle au cœur de situations aussi gênantes qu'hilarantes. Sarah, Marie-Christine Rissignolo et Charles, Jacques Poulain-Denis, nagent dans le bonheur malgré quelques désaccords au sujet de la vie quotidienne. Isabelle Kamichai, fidèle à elle-même, s'assure que Pierre respecte chacun à sa juste valeur. Cette saison, une nouvelle venue fait son entrée. Pamela, incarnée par Maë Paiement, la directrice du centre sportif. Si elle ne laisse pas Pierre indifférent, elle s'intéresse avant tout à ses qualifications d'entraîneur. Et cette fois, Pierre ne pourra pas s'esquiver. Devra-t-il avouer son terrible secret? Claude Legault, Sébastien Delorme, Olivier Gervais-Courchêne, Chloé Deblois et Daniel Thomas s'ajoutent aussi à la distribution. Alors, je vous rappelle que ce sera diffusé les mercredis à 20h sur Ami Télé à compter du 22 avril et en rattrapage sur Ami+. Thank you.
Le ciel s'est renversé, une chanson de Somme. On entendait Rosie Vallant et Ariane Moffatt aussi.
Oui, après avoir menacé lundi de renvoyer l'Iran à l'âge de pierre, Donald Trump y est allé d'une autre menace apocalyptique aujourd'hui même, mardi, annonçant qu'une civilisation entière va mourir si le détroit d'Ormuz n'est pas rouvert. Sur son compte Truth Social, dès 8h06, le président américain a assuré qu'il ne voulait pas que ce scénario se produise, mais il va probablement survenir, a-t-il clamé à quelques 12 heures de l'expiration de l'ultimatum lancé aux dirigeants iraniens. Vous écoutez Canal M, on est ensemble jusqu'à 11 heures. La chronique économie s'en vient et on parlera cinéma également, un film qui prend l'affiche le 17 avril.
Bien avec Hélène Denis.
C'est la chronique économie avec Michel Poitevin, professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. Bonjour Michel.
Bonjour Hélène.
Passez un beau congé de Pâques.
Ben oui, même si le printemps tarde à venir nous réchauffer.
Oui, 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 mais ça s'en vient. Là. Je regardais Environnement Canada, là, puis il y a du soleil et de la chaleur là, pour les prochains jours. Pas aujourd'hui, mais à partir de mercredi, jeudi, là, ça va commencer à se réchauffer. Alors, bon, il y a de l'espoir.
C'est ça.
Michel, on vous a vu à la télévision, là, sur les ondes de Radio-Canada récemment, à propos de la SAC qui annonçait qu'elle aurait des espaces de vente dans les chaînes Maxi et Costco. On veut en savoir davantage.
Oui, mais la SAQ déjà était présente dans certains commerces comme IGA et Couche-Tard, puis là, sous la forme de ce qu'on appelait des mini-agences. Alors, elle va en ouvrir d'autres maintenant dans les Maxi. Et un, au moins un Costco pour le moment, là, celui sur la rue Bridge, là, qui est là, dans le, c'est quoi, le sud de Montréal. Donc, que fait la SAQ avec ça? Ben, elle va étendre son réseau de distribution, puis non seulement dans plus d'endroits qu'avant que juste les succursales de la SAQ, mais ça va lui permettre aussi de rendre les vins disponibles à de plus grandes périodes de temps, parce que souvent les épiceries ou les Costco sont ouverts plus longtemps que les magasins traditionnels, traditionnels de la SAQ. Donc, avant, on retrouvait des vins dans les épiceries et dépanneurs, mais il y avait, on ne pouvait pas distribuer n'importe quel vin dans les épiceries et dépanneurs. C'était seulement des vins qui étaient importés en vrac au Québec et mis en bouteille ici. Maintenant, avec ces mini-agences, il va pouvoir avoir des vins qui sont embouteillés en Italie, en France ou en Australie. On va pouvoir les retrouver ailleurs que dans les succursales de la SAQ. Donc, les vins vont être beaucoup plus disponibles pour les consommateurs.
J'imagine que cette décision-là ne fait pas l'unanimité.
Ben non. Il y a différents groupes qui ne voient pas ça nécessairement d'un bon œil. Premièrement, il y a les micro-distilleries locales, là, québécoises. Elles se disent, les gens vont aller moins à la SAQ parce que les vins vont être plus facilement disponibles quand on fait notre épicerie ou on va au Costco. Et puis, elles ont peur qu'il y ait moins de produits québécois là, au Maxi puis dans les Costco. Donc, les consommateurs seraient moins exposés là, à nos produits locaux. Donc, ça, c'est un premier groupe. Il y a la santé publique qui intervient puis qui dit, ben là, plus l'alcool est disponible, moins c'est bon pour la santé. Mais là, en même temps, je pense que, bon, on pourrait en reparler, mais ça, c'est un autre débat. Là. Au niveau de la santé publique, il faut décider est-ce qu'on veut vendre ou pas de l'alcool. Puis si on veut le vendre, bien, qu'on en vende. Puis si on veut la réglementer, Mais c'est pas nécessairement en limitant le nombre de succursales. L'exemple que je donne souvent, c'est la cigarette. La cigarette est vendue par le secteur privé. On jugeait que c'était pas bon pour la santé. On a imposé des taxes importantes. On a réglementé la publicité. On a donné de l'information sur la nocivité de fumer. Et puis avec ça, la consommation baissait beaucoup. Alors, je pense que les arguments de santé publique, là, j'ai l'impression qu'on mélange. Ça ne devrait pas s'appliquer ici au réseau de distribution de la SAQ. Si vraiment on veut faire un débat sur les problèmes de santé dus à l'alcool, qu'on le fasse, mais là, qu'on trouve les bons moyens pour intervenir si on veut vraiment limiter la consommation.
La question de la privatisation de la SAQ refait souvent surface aussi.
Oui, c'est ça. On pourrait se demander pourquoi c'est l'État qui vend l'alcool. Il y a un paquet de produits qu'on achète, puis c'est le marché, le secteur privé, la concurrence qui régit la vente. Pourquoi c'est l'État? J'ai fait des petites recherches. En fait, ce sont des raisons historiques. Suite à la prohibition, là, au début du 20e siècle, en 1921, on a décidé de vendre vendre l'alcool sous monopole d'État. Donc, c'était la Commission des liqueurs, la CLQ à l'époque. Puis c'était pour contrôler la qualité. Il y avait un marché noir important avant. Et puis, il y avait des alcools frelatés faits dans les sous-sols et tout. Puis la qualité était très variable. Alors, on voulait contrôler la qualité. Puis, c'est assez intéressant de voir que le premier employé embauché a été un chimiste pour assurer la qualité des produits. Alors, juste pour vous montrer. Donc, on voulait enrayer le marché noir, encadrer la vente de l'alcool. Puis à l'époque, l'alcool n'était pas aussi accepté que maintenant. Là, les magasins de la fameuse CLQ à l'époque, ça n'avait rien de comparable avec ce qu'on avait aujourd'hui. Là. On avait un grillage qui séparait les employés des clients. Puis les gens ne voyaient même pas les produits. Puis pour la petite histoire, quand j'étais étudiant, j'ai travaillé dans un magasin de la SAQ sur la rue Sherbrooke, dans l'Ouest.
Ça s'appelait la SAQ dans le temps?
C'était la SAQ. Ouais, je pense que la SAQ est venue au début des années 70. Avant, c'était la Régie des alcools, après la CLQ. Donc, c'est les débuts de la SAQ. Puis ce magasin-là est un peu une relique. Là. Les gens venaient au comptoir, puis nous, les employés, on était derrière le comptoir, puis toutes les bouteilles étaient également derrière le comptoir. Donc, les clients nous demandaient ce qu'on voulait. On allait en arrière chercher les bouteilles, on les apportait. Et même la caisse était du côté des employés. Là. Les gens nous donnaient l'argent, puis c'est nous qui allions à la caisse pour eux. C'est assez... On est loin de là. Ça a beaucoup changé. Maintenant, l'alcool est plus accepté socialement.
Ouais. C'est un service semblable à la SQDC, je pense.
Ben exactement. Là. Puis on pourrait faire un débat. Là. Moi, je pensais qu'avec la SQDC, on apprendrait de ce que moi je qualifie maintenant d'une erreur. Je pense que la SAQ devait être privatisée. Puis j'espérais que la SQDC soit privatisée, mais on a pris le même modèle là, de monopole d'État, puis effectivement, là, en cachant un peu les produits. Là. Je pense que la privatisation, ça nous amènerait beaucoup plus de concurrence, plus de choix pour le consommateur, puis possiblement à des coûts de distribution plus faibles.
Oui, mais la SAQ rapporte beaucoup au gouvernement.
Oui, c'est ça. Puis ça, c'est un argument qu'on avance souvent. On dit « Ah oui, mais si on privatise, on va avoir moins ». Ce n'est pas nécessairement vrai. Là. D'abord, la vente d'alcool baisse et puis là, les revenus baissent aussi. Là, Statistique Canada nous disait que les ventes avaient reculé de 3% au pays de mars 24 à mars 25. L'alcool est moins populaire. Mais il y a quand même un dividende pour le gouvernement. Puis ce dividende-là, ben quoi, on peut le voir comme une marge bénéficiaire par chaque bouteille vendue. Là. C'est ce qui donne le profit de la SAQ, puis le dividende qui est versé au gouvernement de la SAQ. On a juste à taxer, si on avait le secteur privé, on aurait juste à taxer du même montant de cette marge bénéficiaire-là, puis le gouvernement ferait autant d'argent. Donc, pour faire de l'argent sur un produit pour le gouvernement, de récolter un dividende, il y a juste à le taxer. Il n'y a pas besoin d'avoir de prix, de socialiser ou de créer un monopole d'État pour ça. Là. Puis encore une fois, je pense que le marché a certaines vertus de la concurrence pour offrir ce que les gens veulent à moindre coût. Là. Ailleurs, on fait place au marché. Là. Ce qui est intéressant, cette semaine, là, pour ceux qui sont intéressés, il y a une série d'articles dans la presse où on compare le modèle de la SAQ avec ce qui se fait dans les autres provinces canadiennes. Hier, on parlait de l'Ontario, puis aujourd'hui de l'Alberta. En Ontario, le gouvernement Ford a réduit le monopole de la LCBO, la Liquor Commission Board of Ontario, donc en permettant la vente de plusieurs produits là, dans les magasins spécialisés ou les dépanneurs, notamment la bière, le vin, le cidre, les prêts à boire. Par contre, la société d'État va garder son monopole pour l'alcool distillé, comme les rhums, les vodkas, les whisky. L'article de la presse compare certains prix, puis on se rend compte que les prix sont légèrement plus faibles en Ontario qu'au Québec pour les produits cités. Puis un exemple peut-être qui est plus dramatique, là, c'est le champagne La Veuve Clicquot. Bon, on n'en voit pas tous les jours, mais il se retrouve dans les Costco en Ontario à 70 $ la bouteille, ce qui est à peu près 20 $ de moins que ce qu'on retrouve à la SAQ au Québec.
Là. Difficile de faire mieux en termes de prix, là.
Exactement. Puis en Alberta, le modèle est beaucoup plus, en guillemets, dramatique, là, ou plus vers la privatisation. En 93, donc ça fait longtemps, là, ça fait plus de 30 ans, on a décidé de mettre fin au monopole d'État et de privatiser toute vente d'alcool. Donc, c'est les vins, les bières, mais également ce qu'on appelle les spiritueux ou les alcools distillés. Et puis c'est vendu un peu partout. Il y a des entrepreneurs. Puis d'ailleurs, c'est intéressant, dans l'article, on cite une entrepreneur du Québec, là, Nathalie Gosselin, qui s'est installée en Ontario, puis elle dit, le modèle québécois, celui de l'Alberta, lequel est le plus intéressant? Mais elle dit, celui qu'on a ici en Alberta à 100 000 à l'heure. Donc elle dit, si je voulais ouvrir une boutique de vin au Québec, comme elle est à Calgary, elle dit, je pourrais jamais être entrepreneur au Québec. Elle dit, moi, ce qui me passionne, c'est la relation avec le client. Puis faire la même chose au Québec, il faudrait que je sois employé de la SAQ. Puis ça l'intéressait moins. Donc, elle a son propre magasin de vin à Calgary. Et puis, d'ailleurs, depuis la privatisation, le nombre de commerces qui vendent de l'alcool a explosé. On est passé de 208 à 1600. Puis c'est vraiment l'effet de la concurrence puis de la spécialisation, là. Puis, ceux qui sont intéressés pourront aller voir l'article, mais on se rend compte qu'il y a plein de magasins, là. Il y a des magasins qui sont spécialisés dans les vins. Il y en a d'autres, c'est plus les whisky, les alcools spécialisés. Puis pour attirer l'effet de la concurrence, on va attirer le client. Puis dans le magasin, par exemple, de notre entrepreneur, elle va avoir des dégustations les samedis, des clubs de vin, des services personnalisés avec des employés qui connaissent très bien les produits. Donc, on voit que la concurrence, là, pour attirer les clients, ben, on leur donne ce qu'ils ont le goût d'avoir, puis on fait la promotion de nos produits.
On travaille fort.
Exactement. On pourrait voir au Québec, on pourrait avoir des magasins spécialisés dans les alcools locaux, par exemple, puis mousser les produits locaux. Donc, ça pourrait être, il y a des amateurs de whisky. Comme il y a un peu, là, on donne l'exemple à Calgary, là, on aurait un commerce où on aurait 200, 300 sortes de whisky, là, puis on aurait des vendeurs vraiment qui connaissent ça. Et tout pas que les vendeurs de la SAQ connaissent pas ça, là, moi, je suis toujours impressionné par leur niveau de connaissance.
Ah, il y en a des très bons conseillers.
C'est ça, certainement. Par rapport à moi, quand j'ai travaillé, on ne connaissait rien, puis on n'avait aucune formation, on racontait à peu près n'importe quoi à l'époque aux clients parce qu'on ne connaissait pas ça. Mais maintenant, ils sont très bons. Mais quand même, il y a quand même des vertus, à la concurrence. Donc,
très intéressant.
Je pense à avoir. Oui, c'est intéressant de suivre notamment cette série d'articles-là dans la presse cette semaine.
Merci beaucoup, Michel. Bonne journée,
bonne
la prochaine.
À la semaine prochaine. Au revoir.
Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal. Tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance. Et puis lutter toujours, sans question ni repos, se damner pour l'or d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille. Et les villes s'éclabousseraient de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé. Brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible étoile.
Oui, une chanson qui n'a pas vraiment besoin de présentation et qui ne vieillit pas du tout, du tout. Et je trouvais que ça allait bien avec le film dont on va parler, Cap Farewell. C'est un film réalisé par Vania d'Alcantara, qui est belge d'origine. Vous êtes née à Bruxelles. Bonjour, Vania.
Bonjour.
Enchantée.
Merci de me recevoir.
Vous êtes au Québec. Est-ce que c'est votre première visite au Québec?
Absolument pas. J'ai une petite histoire d'amour avec le Québec.
Ah oui, ben oui. Racontez-nous, on a du temps.
Puisque c'est... en fait, ce film-ci, c'est déjà la deuxième coproduction qu'on fait avec le Québec. Et donc, j'ai eu la chance de travailler déjà pour une deuxième fois avec toute une équipe de post-production sonore et également la monteuse, Annie Jean, qui a monté le film, et puis le mixeur, le bruiteur, le concepteur sonore, toute cette équipe-là, c'était déjà la deuxième fois qu'on travaillait ensemble,
ah oui.
Et ce qui veut dire aussi à chaque fois des longs séjours, parce que ça demande de venir pour au moins 2 mois à Montréal, et puis voilà, donc j'ai eu la chance de pouvoir revenir, reconduire cette collaboration avec le Québec, et puis cette fois on est carrément venu, c'était pendant l'été, donc on est venu avec toute la famille passer l'été à Montréal et profiter de à la fois travailler sur le film et à la fois vivre un moment ici, et j'ai toujours un plaisir immense à retrouver le Québec, les Québécois, les amis québécois. Il y a une chaleur et je pense qu'on a une connexion particulière.
Oui, souvent, on a des affinités, puis c'est dit, c'est su.
Il y a une franchise.
Moi, je suis jamais allée en Belgique. Là,
Ben, je pense que vous vous sentirez bien.
Oui. J'ai déjà un contact avec vous.
Voilà.
Et vous êtes venu avec, en tout cas, votre fils qui est devant nous en régie avec Mathieu. Pour parler, c'est votre troisième long-métrage?
C'est mon troisième long-métrage,
et
oui.
Puis, c'est une coproduction, comme vous le disiez, une coproduction Belgique, Canada, Pays-Bas.
Exact.
C'est quoi l'avantage de faire une coproduction? On a plus d'argent, c'est le premier avantage?
C'est avant tout une nécessité. C'est-à-dire que, en fait, pour faire un film, il faut quand même un certain montant. Et ce montant-là, en Belgique, en tout cas, on n'est pas capable de le trouver juste en Belgique. Donc, on est toujours obligé de collaborer avec d'autres pays. Et donc, dans ce cas-ci, c'est les Pays-Bas et le Québec. Et alors après, ça devient un avantage quand on profite des opportunités de rencontre.
Oui, c'est-à-dire, on rencontre les bonnes personnes.
Voilà, exactement. Et là, c'est vrai qu'on a un partenaire quand même assez privilégié avec l'ACPAV, qui est une des plus vieilles sociétés de production québécoise. Et grâce à eux, on a fait des tas de rencontres, comme j'expliquais, par rapport à la post-production sonore, mais aussi, par exemple, dans ce cas-ci, une des règles de la coproduction a été qu'il fallait trouver un des personnages principaux devait être interprété par un ou une actrice.
Et vous avez trouvé
Pascale Bussière,
une de nos plus grandes actrices,
qui
joue le rôle d'une grand-mère. Ça fait quand même spécial parce que nous, on l'a connue toute petite.
Oui.
Et puis là, elle a un rôle de grand-mère. Elle s'appelle Betty
oui.
dans votre film. Comment vous le présentez, votre film? On dit que c'est un film noir, au féminin.
Oui, alors moi, j'aime dire que c'est d'abord un drame familial intimiste,
ouais,
mais enrobé d'une couleur de film noir au féminin.
Ouais.
Donc, c'est-à-dire, on est vraiment à la lisière. À la fois, je pense qu'on peut, en tant que spectateur, on peut s'y retrouver si on aime des films plus profonds, psychologiques, intimistes, humains. Mais on peut également s'y retrouver si on aime des films plus rythmés, avec de l'action, avec un peu de suspense, où on est quand même fort pris dans la quête du personnage, les obstacles qu'elle rencontre. Et donc, je pense que c'est un peu un mélange entre les deux, où à la fois, le spectateur qui aime plus être pris dans quelque chose de haletant va s'y retrouver, et un spectateur qui aime plus être pris dans des liens profonds et plus multicouches, on va dire,
ouais,
s'y retrouve également.
Alors, vous aviez envie de raconter cette histoire. Pourquoi? Là, c'est arrivé comment, l'idée?
Alors, l'origine du projet est assez lointaine, c'est-à-dire qu'il y a plus de 20 ans, moi, j'ai fait un documentaire en Espagne, dans une prison, où j'ai rencontré une femme qui avait à l'époque 29 ans et qui était incarcérée depuis ses 18 ans. Et en fait, on l'a suivie ses dernières semaines d'incarcération. On était là le jour de sa sortie et on espérait la filmer encore après la sortie pour filmer sa réinsertion. Et en fait, ça s'est très mal passé pour elle. Ça a été vraiment une fin tragique. En fait, elle est décédée deux mois après sa sortie de prison. Et ce qu'elle nous racontait essentiellement quand elle était en prison, c'est qu'elle appréhendait beaucoup son retour à la maison parce qu'elle avait une petite fille de 6 ans qui avait été élevée par sa mère, par la grand-mère.
C'est tout à fait le...
Exact.
Le portrait qu'on trouve dans votre film.
Dans mon film, exactement. Donc, en fait, elle avait un petit peu peur de se dire « Est-ce que je vais trouver ma place ?»
Mm-hmm.
Et c'est de cette question-là que je suis partie.
Tony, qui sort de prison, la cherche justement sa place.
Exact. Donc, il y a cette espèce de relation triangulaire entre mère, grand-mère, petite fille.
Ouais.
Et comment cette femme, jeune femme de 24 ans qui sort de prison, va-t-elle retrouver sa place alors qu'elle se fait elle-même réembarquer dans des mauvais coups par son amour de jeunesse.
Le père de son enfant.
Et qui est impliqué dans des trafics illicites. Ça se passe dans une zone portuaire. Et donc, comment va-t-elle pouvoir s'affranchir de ce monde-là, de ce monde toxique? Est-ce qu'elle va pouvoir s'affranchir? On ne va peut-être pas répondre à cette question-là.
Non, parce qu'il y a quand même un certain suspense.
Oui.
Et parlez-nous de la distribution. Là, vous avez évoqué le nom de Pascale Bussière, qui a un rôle important. Qui est très touchant,
elle
très investi. C'était la première fois que vous travaillez avec
elle? C'était une chance immense, une belle, belle rencontre humaine aussi. C'est vraiment quelqu'un avec qui c'est une joie de travailler parce qu'elle a toute cette expérience, c'est une très grande actrice et en même temps une simplicité dans son approche du personnage, une humilité. On cherche ensemble. Elle donne une nuance au personnage alors que c'est un personnage dur à la base. C'est pas facile de jouer une mère qui en fait met des bâtons dans les roues de sa propre fille parce qu'elle
est déçue de sa fille.
Elle est déçue de sa fille.
Ouais. Pas dit combien de temps sa fille a fait de la prison.
C'est pas dit, mais on parle de 4 ans, quelque chose comme ça.
4-5 ans. Sa fille qui est Tony, qui est incarnée par Noé Habitat, une autre belle découverte.
Très belle découverte.
Pascale Bussière, on la connaissait en tout cas en ce qui concerne les Québécois, mais quand je dis une autre belle découverte, il y a la mère incarnée par Noé Habitat et la petite fille, je ne sais pas elle a quel âge, mais elle est tellement juste et touchante, Aïlis Motard. L'avez trouvée comment? Comment vous les avez trouvées ces deux-là?
Alors, commençons par Noé Habitat, c'est donc une jeune actrice française, montante en France. Je pense qu'elle commence à avoir vraiment des rôles de plus en plus importants. Elle est en train maintenant vraiment d'émerger comme une des actrices de la jeune génération en France. Et elle, je l'ai rencontrée via un casting à Paris. Et donc, c'est la directrice de casting qui m'avait fortement recommandé de la rencontrer. Et c'est vrai que quand elle a commencé à jouer la scène devant mes yeux, j'ai eu comme une espèce de évidence. Parce qu'elle a à la fois une justesse très, très incroyable. Elle est naturelle. Et elle ajoute beaucoup de profondeur au personnage. C'est-à-dire, on sent qu'elle amène de la complexité. C'est pas juste joli, c'est profond, c'est multidimensionnel. Et alors, elle a donné énormément au rôle, au personnage.
Ouais, on s'attache à elle, on veut qu'elle s'en sorte.
On veut qu'elle s'en sorte. Et puis, elle a ce côté à la fois jeune fille et à la fois adulte. À certains moments, on la sent un peu presque adolescente, à d'autres moments plus mature. Et donc, elle a toute cette palette-là qui apporte beaucoup au personnage.
Oui, et la relation qu'elle a à rétablir avec sa petite fille qui lui fait plus ou moins confiance.
Oui.
Et elle doit refaire connaissance. Et cette petite fille-là, est-ce que c'était son premier rôle au cinéma?
Alors, Alice, c'était son premier rôle au cinéma.
Elle est impressionnante.
Elle est impressionnante. On l'a découverte via, là aussi, un casting en Belgique, cette fois. Donc, c'est un directeur de casting assez spécialisé chez nous en recherche d'enfants. Et il a fait toute la Belgique, surtout toute la Wallonie, tout Bruxelles. Il a rencontré énormément de petites filles. Et puis, Alice s'est présentée à nous. Et en fait, ce qui est fort avec elle, c'est que elle a incarné le personnage tout de suite, mais de façon tout à fait naturelle. C'est comme si il y avait pas, elle ne jouait pas. Elle était tout de suite de manière tout à fait juste et naturelle. Et donc,
elle n'a pas eu trop de coaching ou...
Pas tant que ça. Elle a pas mal...
Un peu comme Pascal Bussière qui a commencé enfant un peu plus vieille quand même, mais elle était aussi une préadolescente et elle crevait l'écran. Oui. Elle passait, c'était authentique, on y croyait.
Oui.
Et c'est pas toujours le cas.
C'est vrai. Et puis c'est pour ça qu'elles se sont bien entendues aussi, les deux, Pascal Bussière et la petite. Je pense qu'elles se sont vraiment trouvées mère-grand-mère, petite-fille en plus. Mais oui, on a eu beaucoup de chance parce que... du coup, souvent, quand on engage un enfant acteur, on prévoit beaucoup de temps. On se dit, bon, ça va mettre du temps. Il faut prévoir qu'elle soit fatiguée, qu'elle ait envie de faire une pause. Et en fait, pas du tout. Elle était hyper pro. Elle était là. Elle connaissait son texte. Et ça a été vraiment un plaisir immense. Et c'est vrai qu'elle a... En fait, grâce à elle aussi, grâce au personnage qu'elle incarne, on raconte aussi cette histoire du point de vue de l'enfant. Donc, il y a une scène très importante que je ne vais pas dévoiler au milieu du film, où en fait, elle pose vraiment des questions assez profondes à sa mère pour comprendre ce qui s'est passé. Et là, on comprend à travers le regard de l'enfant ce que ça peut être, en fait, de vivre ça, d'avoir une maman qui se retrouve en prison pendant quelques années, d'être élevée par la grand-mère. Qu'est-ce qu'à cet âge-là, comment on perçoit la prison, le crime, le pardon, toutes ces grandes questions-là du point de vue de l'enfance. Et donc, ça permet de toucher à ces thématiques.
Oui, elle donne de bonnes leçons, justement, à sa mère. Elle lui fait prendre conscience de choses essentielles.
Absolument.
En lui servant une tarte aux pommes imaginaire.
Oui, absolument.
Alors, c'est touchant, mais c'est en même temps très, très, très poignant. Et Cap Farewell, on apprend... Moi, je ne connaissais pas non plus cet endroit-là. Êtes-vous déjà allé? Parce que ça existe en Nouvelle-Zélande et au Groenland.
Oui, exactement. Donc, il y en a deux dans le monde, un au Groenland, un au Nouvelle-Zélande. Moi, j'étais en Nouvelle-Zélande, mais à l'époque, je n'avais pas encore l'idée de Cap Farewell, donc je ne suis pas passée par là. Par contre, j'ai pu repérer sur la carte plus ou moins où ça se trouvait. Et en fait, ce que j'aime dans ce titre et dans cette évocation, c'est l'idée d'une vie meilleure.
Un ailleurs meilleur,
un horizon possible. Et puis, il y a cette thématique du phare aussi qui revient beaucoup dans le film où on a l'idée vraiment d'un horizon. Il y a la mer.
Ça fait du bien quand on arrive sur le bord de la mer, on respire.
On respire un peu, ça donne vraiment des moments de souffle à l'histoire qui est quand même assez, comment dire, dense. Et donc, ça fait du bien de se retrouver parfois un peu là. Et puis, voilà, c'est vrai que ce titre de Cap Farewell permet de rêver d'un autre ailleurs. Et c'est en fait, c'est la vie qu'elle se rêve quand elle sort de prison.
Oui. Est-ce qu'elle va réaliser ce rêve à suivre? C'est un film à voir à partir du 17 avril, Cap Farewell, et il y a de la très belle musique. D'ailleurs, le compositeur est avec nous. Il nous reste pas beaucoup de temps, mais on pourrait quand même se quitter avec une ambiance sonore qu'on retrouve dans votre film.
Qu'on retrouve.
Et cette fois, c'est pas noir du tout. Là, on est plus dans un moment de complicité entre la grand-mère, sa fille et sa petite-fille. C'est bien ça?
Alors, dans ce morceau-là, c'est un morceau où c'est les deux amoureux qui se retrouvent et qui danse dans une boîte de nuit.
Oui.
Et donc, c'est un morceau qui a été composé par le compositeur du film, qui est mon chum, qui est Rui Salgado. Et il se trouve qu'on a tout fait à la maison, donc c'est moi qui chante sur le morceau.
Bon, alors on va écouter ça avec attention. Ça a été un plaisir de faire votre connaissance.
Merci, un plaisir pour moi.
Vania d'Alcantara, la réalisatrice du film Cap Farewell, qui prend l'affiche, je vous le rappelle, le vendredi 17 avril, pas vendredi qui vient, l'autre. On va écouter la musique. Au revoir.
There's a way out the sky.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Les grandes fenêtres de la Cadbury, on regarde passer les trains de marchandises, des litres de pétrole, kilos de friandises, transiter de cette île via Sudbury. On se dit que peut-être la vie est ailleurs, qu'anyway on n'a pas les moyens d'aller voir. Et pour pas trop donner de gaz au désespoir, on s'étourdit la tête, on s'engourdit le cœur. On travaille à l'usine, moi et puis mes amis, jour et nuit on construit notre mythologie. Notre mythologie. Et dans les entrailles de la Cadbury, un apprenti sorcier fait broyer sa guitare. Au milieu de la nuit, ouais, y'est jamais trop tard pour sortir le méchant, pour apprendre à pleurer. Sa complainte résonne dans les corridors, labyrinthe oublié hors des heures de bureau. On ne croise personne, on n'entend que l'écho des cris du Minotaure qui cherche la sortie et qui la cherche encore des années plus tard. Pas facile d'échapper à sa mythologie. À sa mythologie. D'artiste, on est juste écœuré des fleurs et la folie de nourrir la machine. On pense pas rester tant d'années à l'usine quand on n'a pas une chine à la Cadbury.
Cadbury, une chanson de Philippe B.
Chronique livre maintenant avec Anne-Marie Aubin qui est au bout du fil. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Hélène.
Aujourd'hui, vous nous présentez trois titres jeunesse finalistes au prix des libraires, à commencer par L'étonnante maison de Madame Victoria.
Oui, un très beau texte de Nicolas Paquin, qui est un artiste, auteur, conteur, qui s'intéresse beaucoup à l'histoire, particulièrement aux militaires, puis à l'architecture donc des vieilles maisons. Je le soupçonne d'être propriétaire d'une maison ancestrale, en fait. Ce livre, illustré par Lucie Crovato, c'est un album, je dirais, pour 6 ans et plus, mais qui va intéresser aussi les plus vieux à cause du sujet. Donc, il est question de quoi? Des maisons victoriennes, d'où le nom Madame Victoria. Alors, Madame Victoria, c'est la voisine de Léonard, un petit garçon. Et il voit bien qu'elle a acheté cette maison-là, puis qu'elle défait, elle détruit le crépi, enlève les portes, le bardeau, et il dit, elle va tout détruire, la maison. Alors, un jour, en venant de l'école, il va aller rencontrer Madame Victoria, puis lui poser des questions. Puis elle lui explique que non, elle démolit pas, elle est en train de restaurer la maison. Puis là, elle va lui dire, par exemple, au sommet de la tourelle, il va y avoir un œil de bœuf tout neuf. Et le petit Léonard, qui a peut-être 6 ans, s'imagine un bœuf là en haut sur le toit de la maison. Alors, il joue beaucoup sur le sens des mots, la polysémie. Par exemple, quand elle va dire « je vais mettre une fenêtre à guillotine », ben là, on voit l'enfant qui s'imagine dans la guillotine, la tête et les mains prisonniers dans cette guillotine. Et ensuite, bon, elle va dire qu'elle va mettre de l'ardoise en écailles de poisson sur la tête, de la maison, des frises, des dentelles. Là, les illustrations nous montrent exactement comment l'enfant imagine cette maison décorée de cette façon. Donc ça, c'est très amusant. Puis elle lui dit, quand tout va être restauré, moi, je vais ouvrir un salon de thé. Puis ça, c'est quelque chose, effectivement, qu'on voit beaucoup dans des vieilles maisons. Alors, cette Madame Victoria, via l'histoire qui est racontée, sert à expliquer l'époque victorienne, l'architecture, la restauration des vieilles maisons. Par exemple, quand on ouvre le livre, dans la page de garde, on voit un morceau de papier peint ancien déchiré, comme on trouve parfois quand on rénove une maison, des vieux journaux. Bon, bref, c'est à la fois narratif, parce qu'il est question du petit garçon qui va regarder la maison évoluer au fil des pages, mais aussi informatif, parce que via ce récit, ben, on parle de restauration, de vieilles maisons, et des illustrations sont superbes. Puis tout le vocabulaire à la fin est expliqué, ainsi que bon des plans, qu'est-ce que c'est l'ère victorienne, pourquoi qu'on appelle ça comme ça. Bref, ça va plaire autant aux petits pour l'histoire de Léonard que pour les plus grands pour comprendre comment on restaure une vieille maison. Moi, j'ai trouvé ça très beau, très intéressant dans un album cartonné aux éditions de La Bagnole. Comme ils savent bien les faire, il y a plein de petits détails qui sont ajoutés, que les enfants vont remarquer et qui rendent cet album-là superbe sur un sujet qui est aussi d'actualité, hein, avec... la difficulté maintenant de trouver des appartements à des prix raisonnables, ben beaucoup de jeunes couples décident d'acheter une maison ancestrale et de la rénover tranquillement, puisque c'est ce qui est abordable présentement. Et puis, ça nous fait apprécier ces vieilles maisons qui font partie du décor.
Ouais, abordable, mais au bout du compte, ça prend beaucoup d'investissement, d'argent et de temps. Il faut être passionné, je pense. Il faut y croire. Mais aussi, moi, j'ai pas eu la chance de feuilleter ce livre ni de le lire, mais de regarder juste la page couverture, la jaquette, c'est tout à fait mignon. Il est roux, ce Léonard?
Oui, et puis la typographie, elle donne une allure victorien aussi par les frises, la manière dont les titres sont écrits. Alors, c'est très soigné comme album.
Ah oui, publié aux éditions de La Bagnole. Autre livre, cette fois intitulé « Oui, non peut-être ».
C'est ça, exactement. Plein de questions de Lou Beauchesne, qui a déjà plusieurs titres à son actif, et c'est illustré par Agathe Brébourret, qui a aussi illustré beaucoup de titres. Et c'est publié chez La Courte Échelle. C'est un roman jeunesse. Là, on va faire un public un peu plus vieux, plus autonome en lecture. Ça a 96 pages, et c'est divisé en chapitres. Je crois que c'est 11 chapitres. Et bon, ben, qu'est-ce que ça raconte, cette histoire-là? C'est l'histoire de deux enfants qui se connaissent depuis toujours. Bertrand et puis l'autre, je crois que c'est Anne, je ne me souviens plus de son nom. Oui, c'est ça, c'est Anne. Et puis bon, ben ensemble, ils ont grandi à l'école. Puis là, ils sont au primaire. Ils ont l'âge de peut-être s'intéresser à des garçons ou des filles. Il y a des petites amourettes qui se forment. Et là, ben un jour, Anne remarque que son ami Bertrand change. Lui qui se peignait jamais, ben là, il va se coiffer. Il se parfume. En classe, il est lunatique. Il va venir à la chorale alors qu'il n'est jamais avant. Alors, lui, de son côté, on voit qu'il cherche à plaire. Et puis un jour, il cherche un trèfle à quatre feuilles. Puis il dit, si je trouve un trèfle, c'est que j'ai peut-être des chances. Alors là, il n'en faut pas plus pour que Anne commence à élaborer qu'est-ce que c'est qu'il vit. Ah, je pense qu'il est amoureux. Mais il est amoureux de qui? Ah là, voilà toute l'enquête qu'elle va faire auprès de toutes les filles qui sont dans la classe, autour, les amis, puis elle l'observe. Puis elle s'aperçoit qu'en classe, il n'est pas concentré. Alors ensuite, elle va remarquer qu'il est un peu soupaulet, il n'est pas comme d'habitude. Alors un jour, il est absent à l'école, puis elle va imaginer le pire. Alors, comme elle se mêle de ce qui ne la regarde pas, elle décide qu'elle prend les devants et elle a trouvé c'est qui, selon elle, l'heureuse élue, et elle va écrire une lettre d'amour. Comme si elle était dans la peau de l'autre.
De quoi je me mêle?
Oui, oui, puis en cachette, elle va aller la mettre dans le casier de Marion, qui est l'heureuse élue, sans être vue. Le lendemain, elle dit ça à Bertrand, écoute, j'ai pris de l'avance, voilà ce qui est arrivé, l'autre est en colère, voyons donc, il n'y en est pas question. Alors, ils vont aller en cachette essayer de retirer la lettre du casier, sauf que la lettre qu'ils vont sortir du casier, c'est pas celle-là. C'est une lettre d'autorisation des parents pour assister à une sortie scolaire. Bref, là, il s'ensuit des péripéties où chacun essaie de s'en sortir C'est très drôle, c'est plein d'humour. C'est abondamment illustré dans le texte, en illustration couleur partout. Et à côté des illustrations, il y a parfois des commentaires, des dialogues qui sont écrits à la main, ce qui fait deux niveaux de lecture pour l'enfant. C'est plein de péripéties, d'humour et de situations qui peuvent mener à une discussion avec l'enfant de justement se mêler de ses affaires. C'est quoi être un amoureux? C'est quoi être un ami? C'est quoi la différence? Bref, sur les relations des enfants à l'école primaire et puis des sentiments qu'ils peuvent éprouver. Très beau livre, très amusant, très bien illustré par Agathe Brébouret qui met de la couleur. Puis vraiment, c'est la page couverture, on voit des costumes. Là, c'est parce qu'il y a un moment où ça se passe à l'Halloween, entre autres. Donc, bref, j'ai bien ri quand j'ai lu cette histoire-là et je suis certaine que ça va plaire aux enfants de fin primaire, pas les premières années, mais peut-être 10 ans. Là,
j'imagine que dans la lettre, on posait la question « Veux-tu sortir avec moi? » Oui? Non? Peut-être?
Non, c'est vraiment une lettre qu'elle a imaginée déclarant ses
sentiments.
Ses sentiments, mais elle s'est pas révisée pour voir s'il y a des fautes. Alors, ça commence comme ça. Je t'écris avec un E au lieu d'un S. Cette lettre pour te dire que je suis amoureux de toi depuis au moins un mois. Oh! Est-ce que tu m'aimes aussi? Puis à la fin, il dit, si tu ne veux pas être mon amoureuse, OK, dis-moi le vite. Puis effectivement, ils ont mis des petits carrés. Oui, non,
ouais,
peut-être.
Ouais.
Comme le titre. Voilà, c'est ça. Alors, c'est ça qui est toute l'intrigue autour des trois questions. Là. Oui, non, peut-être. Les trois réponses possibles. Mm-hmm.
Quelquefois, on veut rendre service, mais ça fait le contraire. Ça peut faire le contraire.
Ça a l'air de se mettre le pied dans les plats, ouais, parfois.
Alors, par Lou Beauchesne et illustré par Agathe Bré-Bourret aux éditions La Courte Échelle et un troisième, Sans retour.
Oui, de Isabelle Trépanier, illustrée par Marie-Ève Turgeon aux éditions Station T. C'est un petit roman de 60 pages qui, lui, est illustré en noir et blanc à l'intérieur. C'est un livre plus petit d'un sujet beaucoup plus grave. Là, on est très loin des blagues de l'autre livre. Alors, Isabelle Trépanier, il faut savoir que c'est une personne qui a été orthophoniste. Donc, elle est très sensible à ce que les jeunes vivent pendant leurs études, par exemple, leurs difficultés d'apprentissage. Donc, dans cette histoire, qui est son premier roman, elle met en scène deux frères qui sont pas des jumeaux. En fait, l'un est adopté le jour de la naissance de l'autre. L'un est muet, l'autre est sourd. Et puis, c'est divisé en 8 chapitres. Et puis, il est question, évidemment, de la différence, du handicap, de la fratrie, de l'amour qu'ils ont entre eux, ces deux garçons-là, de la vie familiale, du courage. Et puis, c'est un texte dramatique dont je ne révélerai pas la fin, mais qui est assez étonnante, j'avoue. Alors, ça commence alors que Jonah et Roméo décident de fuguer. Puis, ils s'en vont de la maison en cachette des parents, avec des petites réserves dans leur sac. Et puis, là, le froid arrive, la nuit arrive. Ils sont habitués d'être ensemble. Ils comprennent depuis toujours, même si chacun a un handicap, il n'a que des appareils. Donc, ils sont pas, ils sont débrouillards. Sauf qu'il y en a un qui ne comprend pas pourquoi l'autre le pousse à partir comme ça, puis il est en colère contre les parents. Puis là, la nuit arrive, l'orage, là, ils sont trempés, ils ont froid, ils vont faire sécher leurs bas. Bref, toutes sortes de complications vont survenir jusqu'à temps qu'à la fin, oui, ils ont faim, puis il y en a un qui dit « Ah, oh, il y a un nid de guêpe, de baie, je ne sais pas quoi, je vais trouver du miel peut-être, il grimpe, puis il tombe, il perd son appareil. » Bref, l'intrigue est soutenue. Les personnages sont des personnages différents, des enfants qui vivent avec un handicap. Ils sont très touchants et ils s'aiment beaucoup. La finale est très surprenante et très dramatique. Uh-huh. Les parents vont finir par les retrouver, puis ça se termine pas très bien, mais en même temps, on veut dédramatiser, je crois, ce que c'est que de vivre avec ça.
Un handicap.
Puis de vivre une vie de famille quand même, puis de s'intégrer. Enfin, bref, c'est un beau livre. On sent très bien la volonté de l'autrice derrière ça. Je dirais qu'il faut au moins 10 ans pour lire ça. Là, c'est pas un livre simple, mais en même temps, c'est un livre qui sensibilise sur les problèmes que des jeunes autour de nous peuvent connaître et surmonter avec difficulté, puis réussir à communiquer quand même. C'est très rare, les livres avec des personnages sourds, là, j'avoue que j'en ai pas vu beaucoup, muet non plus. Alors, c'est peut-être la volonté d'Isabelle Trépanier d'amener dans la littérature jeunesse des jeunes héros différents, débrouillards, qui sont capables de vivre ensemble, de se comprendre, puis de s'aimer beaucoup. Voilà.
C'est un des titres finalistes au prix des libraires qui sera remis le 28 avril. Hein? Vous me disiez,
oui,
vous m'écriviez, oui. Sans retour par Isabelle Trépanier. Les illustrations sont de Marie-Ève Turgeon et l'histoire est publiée aux éditions Station T, une maison d'édition que je ne connaissais pas.
Station T. Dans la collection Jeunesse.
Oui. Merci beaucoup, Anne-Marie.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Chose sauvage, c'est une nouveauté, c'est pas le nom de la chanson s'appelle Seul.
Merci Mathieu. Depuis près de 20 ans, la ville de Rivière-du-Loup met en lumière l'engagement de citoyens, d'entreprises et d'organisations qui contribuent activement à l'intégration des personnes handicapées et à la promotion de l'accessibilité universelle. En vue de la prochaine édition des prix Personnages, la population est invitée à soumettre la candidature de personnes inspirantes qui font avancer la communauté et se distinguent par leur bienveillance, leur détermination et leur courage. 5 catégories sont réparties en 2 grands volets, soit intégration socio-professionnelle pour les employeurs et employés et implication sociale pour les citoyens engagés, entreprises ou organismes et parents soutiens. La sélection des lauréats reposera sur la qualité des interventions réalisées et sur les impacts des actions posées, les attitudes et les efforts déployés pour lutter contre les préjugés liés à l'intégration des personnes handicapées seront également pris en compte. Les lauréats de ces distinctions municipales seront dévoilés lors d'une cérémonie qui se tiendra pendant la Semaine québécoise des personnes handicapées en juin prochain. Les personnes intéressées ont jusqu'au 1er mai à 16 heures pour faire connaître une histoire inspirante, la leur ou celle de quelqu'un d'autre, en remplissant le formulaire électronique à ville, RDL pour rivière-du-loup.ca, /perce-neige, ville-rdl.ca, /perce-neige. Pour plus d'informations, il est possible de communiquer avec Marianne Caron, gestionnaire au programme et équipement communautaire et responsable du plan d'action municipal visant l'intégration des personnes handicapées. Je vous donne un numéro de téléphone, 418-862-0906, 418-862-0906 ou par courriel à marie-anne.caron@villedl.ca. Ville RDL pour rivière-du-loup.ca. Je répète, alors c'est marie-anne.caron@villerdl.ca. Marie-France Bazot, dans sa chronique aujourd'hui, publiée dans la presse, une chronique intitulée « Céline, Gilbert et Michael et les autres ». Et alors, avez-vous passé un bon congé de Pâques? A-t-il été question du Donald autour de votre jambon, agneau ou menu de cabane à sucre? Si c'était comme chez nous, ce fut un incontournable. Le président américain enchaîne les déclarations fracassantes et inquiétantes depuis son improbable discours de mercredi dernier, où il affirmait avoir gagné la guerre, mais en avoir encore pour 2 ou 3 semaines à finaliser le travail dans les coins, sans pour autant proposer de sortie de crise. Depuis, il a lancé un ultimatum et menacé l'Iran des feux de l'enfer si le pays refuse de rouvrir le détroit d'Ormuz. Voilà qui, en dehors de ces cercles dorés de licornes guerrières, inquiète. Cet homme semble avoir perdu la raison, et l'avenir de la planète est entre ses mains. Les Européens en savent quelque chose. Ils devraient bientôt faire face à une pénurie d'essence. Le kérosène se fera lui aussi rare. Partout en Occident, ainsi qu'en Asie, les effets dominos de la guerre au Moyen-Orient vont déstabiliser de nombreux pays. Les chaînes d'alimentation s'emballent et des pénuries dans les domaines les plus variés se profilent. Et c'est sans compter les effets de la guerre réelle dans les pays touchés, la souffrance indicible des corps et des âmes des survivants, des blessés, des déplacés. Cette guerre est absurde et infâme. Pour ne pas virer anxieux à temps plein, on se tourne vers des nouvelles locales qui nous ancrent au sol ou encore des nouvelles juste réconfortantes. Quelques mots à propos du procès au civil de l'ex-mania de l'humour Gilbert Rozon qui s'est conclu de manière non équivoque. Si les courageuses ne feront pas fortune avec cette affaire, elles peuvent s'enorgueillir d'avoir fait avancer la cause des victimes d'agressions sexuelles. C'est une victoire éclatante que la leur. Désormais, on pourra ne plus se contenter des accusations floues portées sur les réseaux sociaux, laissées au verdict du tribunal populaire en plaidant que la loi n'écoute pas les femmes et les victimes. Il faudra encore faciliter l'accès à la justice, bien sûr, mais les courageuses viennent de faire un grand pas avec le verdict de la juge Chantal Tremblay, qui a qualifié M. Rozon de prédateur. Il y a matière à se réjouir. Au chapitre des bonnes nouvelles, il y a aussi l'annonce de la retraite prochaine et téléguidée du PDG unilingue d'Air Canada, Michael Rousseau, qui a prouvé son incurie et son refus obstiné d'apprendre le français lors de son discours hommage aux 2 pilotes morts à LaGuardia. C'est une victoire parce qu'enfin Air Canada reconnaît tacitement que l'unilinguisme anglophone est un manque de respect institutionnel. Le prochain PDG devra être bilingue. Cette annonce survient au moment où le français perd de son importance démographique au Canada. Elle vient signaler que cette question n'en est pas simplement une de nombre de locuteurs, mais de principe historique. Victoire! Parlons du lancement réussi d'Artemis II qui a ravi le sujet de l'exploration spatiale, qui a ravivé, dis-je bien, le sujet de l'exploration spatiale. Oui, nous savons que dans ce domaine, les États-Unis tentent de garder leur ascendance sur la Chine, que les enjeux commerciaux et stratégiques sont énormes, que nous sommes au fond loin de l'ère où le geste scientifique et les retombées technologiques sur nos vies l'emportaient sur le reste. Mais n'empêche, le courage, la mission, l'abnégation de ces quatre astronautes, le départ périlleux d'un vol habité, l'espace, tout ça est toujours émouvant, plus grand que nous. Nous éprouvons une émotion intense, universelle, qui nous rend modestes face à la grandeur de l'infini. Enfin, surtout, parlons de Céline Dion, qui entamera un retour sur scène à Paris. Je ne suis ni une fan finie, ni incollable sur le répertoire célinien. Ce n'est pas mon type de chanson, sauf quelques-unes de Goldman. Je ne me précipite pas au karaoké en bramant pour que tu m'aimes encore. Mais je voue une admiration certaine à la femme, au personnage, à la bête de scène qu'elle est et qu'elle demeure. C'est notre Céline, notre fierté. Une star transnationale, une idole planétaire qui annonce un lundi soir les dates de son spectacle via la Tour Eiffel. Elle nous appartient. Elle appartient à toutes les cultures, mais avant tout, au prix d'une longue, douloureuse et obstinée reconquête, elle s'appartient. Elle est impressionnante de volonté et de résistance. Elle est une reine absolue, une icône de la culture pop mondialisée et pourtant encore si québécoise par son attachement à sa culture originelle. Après des années de silence, elle ose rompre avec Vegas, ses paillettes tapageuses, son toc, son artificiel mortifère pour propulser son art dans la capitale des capitales, Paris. Cette fille est un phénix, c'est un coup d'éclat, un changement de paradigme. Voilà la transfuge de classe globale la plus éblouissante. Je ne suis pas une fan finie, mais force est de constater que Céline est un totem. Elle époustoufle. J'envie celles et ceux qui communieront à sa religion à la Défense Arena l'automne prochain. Comme quoi, il y a encore, malgré tout, matière à espoir et positif. C'est la chronique du jour de Marie-France Bazot, productrice et animatrice, une collaboration spéciale, elle qu'on peut lire dans la presse. Merci d'avoir écouté Au quotidien. On va se retrouver, je l'espère bien, compter de 9h30 demain. Bonne journée. Et puis demain, il fera un peu plus doux. Merci, Mathieu.